Bonjour et bienvenue dans mon nouveau monde au Paraguay. Nous vivons avec mon mari Dominique et nos deux filles depuis le 11 février dans la communauté d'El Paraíso Verde au sud du Paraguay. J'ai un peu l'impression que cette série se transforme en chronique animalière parfois, puisqu'après les grenouilles, les chiens, les lucioles et mes chats, je vais vous parler des serpents. En effet, la semaine dernière, nous avons eu une conférence sur les serpents. Comment reconnaître les serpents venimeux des non-venimeux ?
Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi.
Oui, comme dans le livre de la jungle, il y a des serpents au Paraguay et c'est important de le savoir. La conférence a eu lieu par 45 degrés, elle était organisée par un membre de la communauté en collaboration avec le vétérinaire de la ville voisine. Donc, en me transformant en vacherin Mondor sur ma chaise, je suivais un PowerPoint commenté par le vétérinaire en espagnol, traduit par une femme de la communauté en allemand et puis retraduit par mon mari pour moi et les filles en anglais. Ça passait, sauf qu'après 2 heures de blabla en 3 langues, je ne savais plus trop comment je m'appelais. Mais en conclusion, je peux quand même vous parler de comment reconnaître un serpent venimeux par la forme de ses pupilles, la forme de sa tête, l'existence de ses fossettes ou non, la position de ses dents, le nombre de ses rayures ou encore la taille des écailles sur sa tête. Mais la vérité qui m'a sauté à la figure après 2h30 de conférence et 2 kilos en moins, c'est que s'il m'arrive de croiser un serpent autour de chez moi ou durant une promenade en forêt, je vais lui foutre une paix royale et passer mon chemin sans le regarder dans les yeux pour voir ses pupilles, ni compter ses rayures ou encore lui demander sa taille de slip. On est bien d'accord. Enfin, pour information, vous saurez qu'il n'y a que 2 sortes de serpents venimeux dans notre région, les vipères et puis les serpents corail qui sont extrêmement rares. Sinon, nous avons rencontré un nouvel habitant dans la communauté. Il s'appelle Tom, il vient du Canada, il est écrivain, musicien et professeur de ukulélé. Il a débarqué il y a quelque temps à El Paraíso Verde avec 10 ukulélés dans ses valises et comme il nous a à la bonne, il nous a prêté 4 instruments et plein de partitions pour les vacances qui commencent cette semaine pour qu'on ne s'ennuie pas et qu'on puisse s'exercer. Alors ne vous moquez pas s'il vous plaît, voici en exclusivité mes toutes premières notes de ukulélé juste pour vous. Merci pour votre indulgence. En dehors de ça, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des différentes personnes qui peuplent notre communauté. Le mélange de nationalités, je l'avais déjà évoqué, encore cette majorité germanophone, mais de plus en plus d'Américains, de Canadiens anglophones qui arrivent, quelques Hollandais, des Anglais, quelques Flamands et une petite minorité de francophones pour l'instant, mais j'espère que ça va changer. Qui sont tous ces gens ? Eh bien, comme dans un village, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont venus ici pour avoir la paix, point final, et qu'on n'aperçoit quasiment pas dans la vie collective. Ils vivent leur vie sur leur domaine, dans leur maison, et sont quasiment complètement autonomes. Et puis il y a les gens, comme nous, qui ont plus besoin des autres, de partager, de prendre dans les bras, de rire, de discuter, de participer à la vie de la communauté. Et c'est très bien dans les deux cas. Parmi cette population, il y a des personnes retraitées qui avaient de l'argent de côté, d'autres qui vivent de leur rente. Il y a pas mal de gens, comme mon mari, qui ont un business en ligne et qui peuvent vivre de ça. Il y a deux jeunes couples de trentenaires avec des enfants. Il y a des gens dans la vingtaine qui ouvrent leur propre entreprise, comme Ferdinand, notre super jardinier, ou Sébastien qui s'occupe de faire plein de travaux liés au bois. Un joli mélange de toutes les générations en tout cas. Et puis, il y a l'école.
Bon, alors maintenant vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie. Et je vous préviens que le premier que j'attrape, en train de chuchoter, papoter, bavarder, ou quoi que ce soit, je le fous à la porte avec un rapport de chez monsieur.
Pour nos enfants, il y avait 2 possibilités. Les écoles traditionnelles à l'extérieur du village, en espagnol, avec les enfants paraguayens, ou l'école privée du village. Nos filles vont à l'école du village, surtout pour des raisons pratiques de déplacement, et puis parce qu'on aime bien la philosophie des profs, plutôt basée sur la philosophie Montessori ou Waldorf. Apprendre en ayant du plaisir, sans forcer, respecter les différents intérêts des enfants, ne pas les assommer de devoirs. Seul bémol pour mes filles, dû à la majorité germanophone, l'école se fait en allemand. Ce qui n'est pas toujours facile. Voici les branches qui sont enseignées ici. Les maths, la biologie, l'histoire, l'espagnol, le sport, le travail sur bois, le jardinage, l'art, la musique, la conscience de soi. Et puis il y a des moments d'échange et de jeu entre les enfants. Les classes comportent en moyenne 5 enfants. Les cours se terminent le plus souvent à 13h et au maximum à 14h pour que les enfants puissent ensuite se reposer, jouer, grandir, passer du temps en famille. J'ai beaucoup aimé ce que le responsable de l'école nous a dit. Son rêve à lui serait que dans quelques années, nos enfants trouvent un travail qu'ils aiment, non pas grâce aux diplômes qu'ils ont acquis, mais grâce aux valeurs humaines qu'ils auront développées. Je vous laisse méditer là-dessus. Les vacances de Pâques ont déjà commencé ici. Défi de la semaine pour nous, trouver de la peinture pour peindre des œufs, activité qui ne semble pas être connue au Paraguay. Sur ce, bon début de printemps à vous et à bientôt.